Professeur Alphonse Toumbalova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire exécutif adjoint de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la CPGL?
Vous savez que la CPGL a été effectivement relancée depuis juillet 2007. Maintenant, nous sommes en août 2009. Je peux vous dire qu'après 2 ans, la relance de la CPGL est actuellement effective du fait que la RDC a nommé ses hauts représentants à la CPGL, dont je suis, et à côté de moi, deux directeurs chargés de programmes. Viennent de la RDC.
Oui, lorsque vous dites que la relance est effective, ça veut dire quoi, effectivement? Parce qu'il ne suffit pas seulement de nommer des représentants de la RDC, mais les activités sur terrain.
Oui, parce que, vous savez, les partenaires extérieurs, bilatéraux et multilatéraux, ont longtemps hésité, s'est demandé si la CPGL allait vraiment ressusciter du fait que le Congo n'avait pas encore pris l'option de regagner la CPGL. Mais depuis que je suis là, fin mai de cette année, et que je m'occupe de la coordination des programmes, quelques mois après, nous avons eu un Congolais aussi chargé des investissements, une Congolaise chargée de l'éducation et de la recherche, qui ont pu rejoindre l'équipe de chargé des programmes, dont un Rwandais qui s'occupe de l'énergie, infrastructure et communication, un autre ressortissant rwandais du programme paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance, et une citoyenne du Burundi qui est en charge du programme agriculture et sécurité alimentaire. Donc c'est dire que c'est seulement depuis un mois et demi, que la CPGL est au complet et que maintenant nous pouvons démarrer et bientôt prendre la vitesse de croisière. D'ailleurs, nous venons de faire un séjour de travail, une mission de prise de contact et de recueil de données avec l'ensemble des chargés de programme ici à Kinshasa. Ils sont rentrés hier.
Oui, ils sont rentrés hier ici à Kinshasa parce que vous avez pris des contacts avec les ministres. Est-ce qu'il y a quelques priorités que vous avez déjà établies au niveau de la région?
Vous savez, vous avez parlé de l'effectivité. Dans nos 5 programmes-là, il y a le programme paix et sécurité qui a pris de l'avance, une longueur d'avance, c'est normal. Parce que sans consolidation de la paix dans cette région qui a été déchirée longtemps par des conflits internes et des conflits régionaux également, où se trouvaient impliqués plusieurs acteurs, dont les pays de la région des Grands Lacs, il fallait d'abord rétablir la confiance, consolider la paix pour pouvoir maintenant entamer d'autres projets intégrateurs. C'est ainsi que dans un premier temps, au mois de mai, il a été organisé la conférence des gouverneurs de provinces limitrophes du Rwanda, du Burundi et du Congo, de façon à enrayer la conflictualité dans cette région. Cela a été suivi par une réunion des responsables des services des migrations, ce qui a permis, par exemple, vous connaissez bien la région, les postes frontaliers étaient fermés à 18h. Désormais, la grande barrière ou la petite barrière à Goma, c'est jusqu'à 24h. Et nous allons maintenant vers l'ouverture de frontières 24h sur 24, donc consolider la libre circulation des personnes et des biens. Nos ministres de la Défense se sont réunis et vous savez qu'à l'occasion de cette réunion à Goma, un bon nombre de décisions importantes ont été prises, notamment l'élaboration d'un pacte de défense mutuelle. Nous allons vers une organisation commune de la défense et sans doute probablement une brigade intégrée de la région des Grands Lacs. Nous avons mis sur pied la commission défense et sécurité qui comprend les ministres de la défense avec une sous-commission défense et sécurité qui réunit les chefs d'état-major, les renseignements civils et militaires, ainsi de suite. Et puis le clou a été la rencontre récente des chefs d'État, Joseph Kabila et Paul Kagame à Goma. Donc les choses avancent. Je crois que le tissu de la confiance qui était très déchiré est en train de se recoudre et de se consolider. Il y a une grande circulation de personnes et des biens dans la sous-région. Et maintenant, nous regardons vers d'autres projets intégrateurs tels que la réhabilitation du barrage de Ruzizi 2. Les études de faisabilité de Ruzizi 3 et Ruzizi 4 sont très avancées. L'exploitation commune du gaz méthane entre le Rwanda et le Congo, il y a des pas, je dirais même des géants qui ont été accomplis. Il y a les axes routiers transfrontaliers entre le Rwanda et le Congo, le Rwanda et le Burundi et le Congo.
Mais au sujet, par exemple, ouais. Au sujet par exemple du gaz méthane, professeur, apparemment c'est plutôt le Rwanda qui a commencé par rapport au Congo. Est-ce que vous en parlez au niveau de votre structure?
Bon, le Rwanda a commencé, nous en parlons au niveau de notre structure. Il s'est tenu récemment, au cours de ce mois d'août, une réunion à Gisenyi entre les ministres de l'énergie des trois pays. Mais il faut dire que cela a concerné davantage le Rwanda et le Congo. Les ministres de l'énergie du Burundi étaient là presque comme observateurs. Et nous n'avons pas déploré le fait que le Rwanda ait pu commencer. Mais nous avons plutôt apprécié cela parce que maintenant, nous allons pouvoir bénéficier et tirer profit de l'expérience accumulée par le Rwanda.
Je vous remercie, professeur Ntumbalova.
Merci beaucoup, Deschamps Menga.